Livre des nombres. Étude sur le chapitre 16. On peut considérer le chapitre que nous venons de lire comme une digression dans l'histoire de la vie d'Israël au désert, excepté toutefois le court paragraphe touchant celui qui avait profané le sabbat. Il nous transporte dans l'avenir alors que malgré tous ses péchés, toute sa folie, ses murmures et sa rébellion, Israël possédera la terre de Canaan et offrira des sacrifices de justice et des chants de louange au Dieu de son salut. Nous avons vu Jéhovah passant par-dessus l'incrédulité et la désobéissance, chapitres 13 et 14, anticipant le plein et final accomplissement de son dessein éternel et la réalisation de ses promesses à Abraham, à Isaac et à Jacob. Puis le chapitre 16 reprend l'histoire du désert. Histoire triste et humiliante quant à l'homme, mais brillante et bénie au point de vue de la patience inépuisable et de la grâce illimitée des dieux. Ce sont les deux grandes leçons du désert. Nous y apprenons ce qu'est l'homme, mais aussi ce que Dieu est. Les deux choses se lient dans les pages du livre des nombres. Ainsi, au chapitre 14, nous avons l'homme et ses voies. Au chapitre 15, nous avons Dieu et ses voies. Puis dans notre chapitre 16, nous revenons à l'homme et à ses voies. Puissions-nous recueillir une profonde et solide instruction de cette double leçon. Verset 1 à 3. Et Coré, fils de Jitsear, fils de Kehat, fils de Lévi, s'éleva dans son esprit, et Datan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélec, qui était fils de Ruben. Et ils se levèrent devant Moïse, avec 250 hommes des fils d'Israël, princes de l'assemblée, hommes appelés au conseil, des hommes de renom. Et ils s'accroupèrent contre Moïse et contre Aaron et leur dirent, « C'en est assez, car toute l'assemblée, eux tous, sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Et pourquoi vous élevez-vous au-dessus de la congrégation de l'Éternel ?» Ici, nous arrivons à la solennelle histoire de ce que le Saint-Esprit, par l'apôtre Jude, appelle la contradiction de Coré. La rébellion est attribuée à Coré parce qu'il en était le chef religieux. Il semble avoir possédé une autorité suffisante pour réunir autour de lui un grand nombre d'hommes influents, des princes, des hommes appelés au conseil, des hommes de renom. En un mot, c'était une rébellion formidable et sérieuse, et nous ferons bien d'en examiner attentivement la source et le caractère moral. C'est toujours un moment très critique dans l'histoire d'une assemblée que celui où un esprit de désaffection s'y manifeste. Car s'il n'est pas réprimé selon Dieu, les plus désastreuses conséquences en résulteront certainement. Il y a dans chaque assemblée des éléments d'opposition. Il suffit d'un esprit remuant et dominateur pour agir sur de tels éléments et changer en une flamme dévorante le feu qui couvait en secret. Il y a toujours des centaines et des milliers d'individus prêts à se rallier autour de l'étendard de la révolte dès qu'il a été déployé, mais qui n'auraient eu ni la force ni le courage de le lever eux-mêmes. Satan ne prendra pas le premier venu comme instrument dans une telle œuvre. Il lui faut un homme rusé, adroit et énergique, un homme qui ait de la puissance morale, de l'influence sur l'esprit de ses semblables et une volonté de faire pour poursuivre ses projets. Il est certain que Satan revêt de toutes ces choses les hommes qu'il emploie à des entreprises diaboliques. Quoi qu'il en soit, nous savons, comme un s'est assuré, que les grands conducteurs de toutes les révoltes ont généralement été des hommes d'un esprit supérieur, capables de gouverner à leur gré la foule inconstante qui, semblable à l'océan, se laisse soulever par tous les vents d'orage. De tels hommes savent remuer les passions des peuples afin de s'en servir ensuite. Leur levier le plus efficace pour soulever les masses, c'est la question de leurs droits et de leur liberté. Ils peuvent seulement réussir à persuader au peuple que leur liberté est menacée ou que leurs droits sont enfreints. Ils sont sûrs de rassembler autour d'eux un grand nombre d'esprits agités et de causer beaucoup de mal. Tel fut le cas de Coré et ses assidus. Ils essayèrent de persuader au peuple que Moïse et Aaron agissaient en maître avec leurs frères et portaient atteinte à leurs droits et à leurs privilèges comme membres d'une sainte congrégation dans laquelle, à leur jugement, tous étaient sur le même niveau et où l'un avait autant que l'autre le droit d'agir. Vous entreprenez trop, c'est-à-dire c'en est assez. Tel était leur chef d'accusation contre l'homme le plus doux de la terre. Mais qu'est-ce que Moïse avait pris sur lui-même? Le plus rapide coup d'œil jeté sur l'histoire de ce bien-aimé serviteur aurait suffi pour convaincre une personne impartiale que, bien loin de s'emparer des dignités ou de responsabilités, il ne s'était montré que trop prêt à les refuser quand elles lui avaient été offertes et à succomber sous leur poids quand elles lui avaient été imposées. En conséquence, celui qui pouvait accuser Moïse de prendre trop sur lui prouvait simplement qu'il était dans une complète ignorance du véritable esprit et du véritable caractère de cet homme. Assurément, celui qui pouvait dire à Josué « Es-tu jaloux pour moi ? Ah, que plutôt tout le peuple de l'Éternel fut prophète, que l'Éternel mit son esprit sur eux, n'était pas dans le cas de prendre tout sur lui. » Mais d'un autre côté, si Dieu distingue, appelle et qualifie un homme pour une œuvre, s'il remplit et approprie un vaisseau pour un service spécial, comment et pourquoi alors trouver à redire au don et à la charge conférée par Dieu? En vérité, rien ne peut être plus absurde. Un homme ne peut rien recevoir à moins qu'il ne lui soit donné du ciel. Jean 3, verset 27. Il est donc complètement inutile, sans cela, qu'un homme quelconque prétende être ou avoir quelque chose. Une telle prétention doit nécessairement aboutir au néant. Tôt ou tard, les ambitieux seront remis à leur place et rien ne subsistera que ce qui est de Dieu. Corée et sa bande disputaient donc contre Dieu, non contre Moïse et Aaron. Ceux-ci avaient été appelés par Dieu à occuper une certaine place et accomplir une certaine œuvre. Et malheur à eux s'ils s'y étaient refusés, car ce n'étaient pas eux qui avaient aspiré à la place qui s'était chargée de l'œuvre. Ils avaient été consacrés par Dieu. Ceci aurait dû résoudre la question et devait la résoudre pour tous, sauf pour les rebelles turbulents et occupés d'eux-mêmes qui cherchaient à nuire aux vrais serviteurs de Dieu dans le but de s'élever eux-mêmes. C'est toujours le cas des promoteurs de sédition et de mécontentement. Leur vrai but est de se rendre important. Ils parlent hautement et d'une manière très plausible des droits et des privilèges communs du peuple de Dieu. Mais en réalité, ils aspirent à une position pour laquelle ils ne sont nullement qualifiés et à des privilèges auxquels ils n'ont aucun droit. Au fait, la chose est aussi simple que possible. Dieu a-t-il conféré à quelqu'un une position à occuper ou une œuvre à faire? Qui y contredira? Que chacun donc reconnaisse sa place et la remplisse, qu'il reconnaisse l'œuvre qui lui a été confiée et qu'il la fasse. C'est la chose la plus insensée du monde que de chercher à occuper la position ou à faire l'œuvre d'un autre. Nous l'avons vu en méditant sur les chapitres 3 et 4 de ce livre. Il faut que cela reste toujours vrai. Corée avait son œuvre, Moïse avait la sienne. Pourquoi l'un portait-il envie à l'autre? Il serait tout aussi raisonnable d'accuser le soleil, la lune et les étoiles de se donner trop d'importance en brillant dans l'espace qui leur est assigné, que d'accuser un serviteur revêtu des dons de Christ et qui accepte la responsabilité de leur emploi. Or, ce principe est d'une immense importance dans chaque assemblée, petite ou grande, et en toutes circonstances où des chrétiens sont appelés à travailler ensemble. C'est une erreur de supposer que tous les membres du corps de Christ soient appelés à des places de distinction ou que chaque membre puisse choisir sa place dans le corps. C'est entièrement et absolument l'affaire du décret de Dieu. Tel est l'enseignement très clair de 1 Corinthiens 12, verset 14-18. Car aussi le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. Si le pied disait « parce que je ne suis pas main, je ne suis pas du corps », est-ce qu'à cause de cela il n'est pas du corps? Si le corps tout entier était œil, où serait l'ouïe? Si tout était oui, où serait l'odorat? Mais maintenant, Dieu a placé les membres, chacun d'eux, dans le corps, comme il l'a voulu. Là se trouve la vraie seule source du ministère dans l'Église de Dieu, dans le corps de Christ. Dieu a placé les membres. Ce n'est pas un homme qui en établit un autre, encore moins est-ce un homme qui établit sans lui-même. Il faut l'établissement divin ou rien. L'établissement par l'homme n'est rien moins qu'une audacieuse usurpation des droits de Dieu. Or, en examinant le sujet à la lumière du merveilleux enseignement de 1 Corinthiens 12, que dirions-nous si les pieds accusaient les mains et si les oreilles accusaient les yeux de prendre trop d'importance? Ne serait-ce pas ridicule au dernier point? Il est vrai que ces membres occupent une place distinguée dans le corps, mais pourquoi? Parce que Dieu les y a placés comme il l'a voulu. Et que font-ils dans cette position distinguée? l'œuvre que Dieu leur a donnée à faire. Et dans quel but? Pour le bien du corps entier. Il n'y a pas un seul membre, quelque obscur qu'il soit, qui ne recueille un avantage positif des fonctions bien accomplies par un membre distingué. D'un autre côté, le membre distingué jouit et profite des fonctions bien remplies par le membre le plus obscur. Que les yeux perdent leur puissance de vision et chaque membre le sentira. Qu'il y ait une perturbation dans les fonctions du membre le plus insignifiant et le membre le plus honorable souffrira. Par conséquent, la question n'est pas de savoir si nous prenons beaucoup ou peu sur nous, mais si nous faisons l'œuvre qui nous a été assignée et si nous occupons notre vraie place. C'est par la coopération énergique de tous les membres, selon la mesure de chaque partie, que s'effectue l'édification de tout le corps. Si cette grande vérité n'est pas saisie et maintenue, l'édification, bien loin d'être produite, sera positivement empêchée. Le Saint-Esprit est étouffé et contristé. Les droits souverains de Christ sont niés. Dieu est déshonoré. Chaque chrétien doit agir d'après ce principe divin et témoigner contre tout ce qui l'obscurcit ou le nie. L'établissement de l'Église professante, cette ruine du témoignage que Dieu attendait de son Église, doit être, pour les fidèles, un exemple à éviter et un puissant encouragement pour garder et pour pratiquer la vérité de Dieu, dont l'oubli, l'abandon et la négation ont produit cette ruine. Le chrétien est toujours solennellement tenu de se soumettre à la pensée révélée de Dieu. Alléguer les circonstances comme une excuse pour faire le mal ou pour négliger quelques vérités de Dieu, c'est uniquement se jouer de l'autorité divine et faire de Dieu l'auteur de notre désobéissance. Nous avons seulement rappelé ce sujet comme étant lié au chapitre que nous allons continuer à examiner. Lorsque Moïse, le vrai serviteur de Dieu, entendit les paroles séditieuses de Corée et de sa bande, il tomba sur sa face. Nous avons vu en Exode 14 ce bien-aimé serviteur prosterné lorsqu'il aurait dû se tenir debout. Mais ici, c'était la chose la meilleure et la plus sûre qu'il pût faire. Il n'y a jamais d'avantage à contester avec les gens mécontents et turbulents. Il vaut beaucoup mieux les laisser entre les mains du Seigneur, car en réalité, c'est avec lui qu'ils ont affaire. Si Dieu place un homme dans une certaine position, qu'il lui donne une certaine œuvre à faire, et que ses semblables lui cherchent querelle à cause de son obéissance à Dieu, alors leur querelle est réellement avec Dieu qui saura la vider selon sa sagesse. Cette vérité donne un saint calme et une élévation morale aux serviteurs du Seigneur toutes les fois que les esprits envieux et remuants s'élèvent contre lui. Il n'est guère possible d'occuper une place distinguée de service ou d'être employé d'une manière particulière par Dieu sans rencontrer de temps à autre les attaques de certains hommes radicaux et mécontents qui ne peuvent pas supporter de voir quelqu'un plus honoré qu'eux-mêmes. Mais le vrai moyen de répondre à de tels gens, c'est de s'incliner dans l'humilité et dans le sentiment de son propre néant, puis de laisser passer sur soi le courant de la révolte. Et Moïse l'entendit et tomba sur sa face, et il parla à Corée à toute son assemblée, disant « Demain l'Éternel fera connaître, non pas Moïse donnera connaître. Fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui, et celui qu'il a choisi, il le fera approcher de lui. Faites ceci, prenez des encensoirs, Corée et toute son assemblée, et demain mettez-y du feu et placez de l'encens dessus devant l'Éternel, et il arrivera que l'homme que l'Éternel aura choisi, celui-là sera saint. C'en est assez, fils de Lévi. » Verset 47. C'était placer l'affaire en de bonnes mains. Moïse met en première ligne les droits souverains de Jéhovah. L'Éternel fera connaître, et l'Éternel choisira. Il ne dit pas un seul mot sur lui-même ou sur Aaron. Toute la question repose sur la nomination et sur le choix fait par l'Éternel. Les 250 rebelles sont placés face à face avec le Dieu vivant. Ils sont appelés à paraître en sa présence avec leurs encensoirs en leurs mains, afin que toute l'affaire soit examinée et définitivement résolue devant ce grand tribunal après lequel il ne peut pas y avoir d'appel. Il n'aurait évidemment servi de rien que Moïse et Aaron eussent prononcé un jugement puisqu'ils étaient défendeurs dans la cause. Mais Moïse désirait que toutes les parties fussent citées devant Dieu pour y juger et vider le différend. C'était la vraie humilité, la vraie sagesse. Il est toujours bon quand les gens recherchent une position de la leur laisser occuper, au contentement de leur cœur. car assurément la place même à laquelle ils ont follement aspiré sera le théâtre de leur défaite signalée et de leur déplorable conclusion. On peut voir quelquefois des hommes porter envie à d'autres dans une certaine sphère d'activité et aspirer à l'occuper eux-mêmes. S'ils l'essayent, et ils sont sûrs de tomber à la fin et de se retirer couverts de honte et de confusion de face, le Seigneur les confondra certainement tous. Le mieux pour ceux qui sont tendus à des attaques envieuses sera toujours de tomber sur leur face devant Dieu et de lui laisser le soin de résoudre la question avec les mécontents. Et Moïse dit à Corée, écoutez, fils de Lévi, est-ce deux choses pour vous que le Dieu d'Israël vous ait séparé de l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui pour faire le service du tabernacle de l'Éternel et pour vous tenir devant l'assemblée afin de la servir? Qu'il t'ait fait approcher, toi et tous tes frères, les fils de Lévi avec toi, comme tu pensais, que vous recherchiez aussi la sacrificature? C'est pourquoi toi et toute ton assemblée, vous vous êtes rassemblés contre l'Éternel. Et Aaron, qui est-il que vous murmuriez contre lui? Verset 8 à 11. Ici, nous sommes conduits à la véritable cause de cette terrible conspiration. Nous voyons l'homme qui l'a provoqué et l'objet qu'il désirait. Moïse s'adresse à Corée et l'accuse d'aspirer à la sacrificature. Il est important que le lecteur saisisse clairement ce point selon l'enseignement de l'Écriture. Il faut qu'il voie ce qu'était Corée, ce qu'était son œuvre et quel était l'objet de sa turbulente ambition. Il faut qu'il voie toutes ces choses s'il veut comprendre la vraie force et le vrai sens de cette expression de Jude, la contradiction de Corée. Qu'était donc Corée? C'était un lévite qui, comme tel, était appelé à servir et à enseigner. Ils enseigneront tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël, Deutéronome 33, verset 10. Le Dieu d'Israël vous a fait approcher de lui pour faire le service du tabernacle de l'Éternel et pour vous tenir devant l'assemblée afin de la servir. Telle était Corée et telle était sa sphère d'activité. Mais à quoi aspirait-il? À la sacrificature. Et vous rechercherez aussi la sacrificature? Or, un observateur superficiel pourrait ne pas remarquer que Corée recherchait quelque chose pour lui-même. Il semblait défendre les droits de toute l'assemblée. Mais Moïse, par l'Esprit de Dieu, démasque cet homme et montre que, sous ce prétexte plausible, il recherchait audacieusement la sacrificature pour lui-même. Il est bon de remarquer ceci. On verra généralement que ceux qui parlent bien haut des libertés, des droits et des privilèges du peuple de Dieu cherchent en réalité leur propre élévation et leur propre avantage. Non contents de faire leur propre œuvre, ils cherchent une place qui ne leur convient pas. Cela n'est pas toujours visible, mais il est sûr que Dieu le manifestera tôt ou tard, car c'est à lui de peser les entreprises. Rien n'est plus méprisable dans l'assemblée que de chercher une place pour soi-même. Cela doit inévitablement finir par le désappointement et la confusion. La grande chose pour chacun, c'est d'être trouvé occupant sa place assignée et faisant son œuvre déterminée. Plus cela se fera humblement, tranquillement et simplement, mieux cela vaudra. Or, Corée n'avait pas appris ce principe simple mais salutaire. Mécontent de sa position et de son service divinement assigné, il aspirait à quelque chose qui ne lui appartenait point du tout. Il aspirait à être sacrificateur. Son péché était celui de la rébellion contre le souverain sacrificateur de Dieu. C'était la contradiction de Corée. Ce fait de l'histoire de Corée n'étant généralement pas compris, on accuse de son péché tous ceux qui cherchent à exercer un don quelconque qui leur aurait été conféré par le chef de l'Église. Un tel jugement est totalement dénué de fondement. Prenez par exemple un homme auquel Christ a manifestement conféré le don d'évangélisation. Devons-nous le supposer coupable du péché de Corée parce qu'en vertu du don et de la mission de Dieu, il s'en va prêcher l'Évangile? Doit-il prêcher ou ne le doit-il pas? Le don de Dieu et son appel sont-ils suffisants? Agit-il en rebelle celui qui prêche l'Évangile dans de telles conditions? Il en est de même pour ce qui regarde le pasteur ou le docteur. Est-il coupable du péché de Corée en exerçant le don spécial qu'il a reçu du chef de l'Église? Le don de Christ ne fait-il pas un homme ministre? Que lui manque-t-il pour servir? N'est-il pas clair pour tout esprit sans prévention, pour quiconque se laisse enseigner par l'Écriture que la possession d'un don octroyé d'en haut suffit seule pour faire d'un homme un ministre. N'est-il pas également évident que, quoique un homme ait tout ce qu'il est possible d'avoir sans ce don de la part du chef de l'Église, il n'est pas ministre? Nous avouons ne pas comprendre comment on peut élever des doutes sur des questions aussi claires. Nous parlons, qu'on s'en souvienne, des dons spéciaux pour le service dans l'Église. L'évangéliste exerce plutôt son don en dehors de l'Église. Par son ministère, les âmes qui viennent au Seigneur sont ajoutées à l'Assemblée. Sans doute, chaque membre du corps de Christ a quelque ministère à remplir, quelque œuvre à faire. Ceci est compris par tout chrétien intelligent. Il est bien évident que l'édification du corps n'est pas seulement le fruit de l'action de quelques dons éminents, mais aussi de l'opération de tous les membres dans leur position respective. Comme nous le lisons en Éphésiens 4, verset 15-16, « Mais que, étant vrais dans l'amour, nous croissions en toutes choses, jusqu'à lui qui est le chef, le Christ, duquel tout le corps bien ajusté et lié ensemble par chaque jointure du fournissement, produit selon l'opération de chaque partie dans sa mesure l'accroissement du corps pour l'édification de lui-même en amour. » Tout cela est aussi clair que l'Écriture peut le rendre. Mais quand on donne spéciaux, tels que l'évangéliste, le pasteur, le prophète ou le docteur, Christ seul est celui qui les donne. La seule et unique possession des dons conférés à de tels hommes en fait des ministres. Éphésiens 4, verset 11-12, 1 Corinthiens 12, verset 11. D'un autre côté, toute l'éducation et toutes les institutions humaines sous le soleil ne pourraient pas faire d'un homme un évangéliste, un pasteur ou un docteur, à moins qu'il n'ait reçu de la tête de l'Église un don spécial et positif. Nous croyons en avoir assez dit pour prouver au lecteur que c'est une très grave erreur que d'accuser des hommes de la protéger de Corée parce qu'ils exercent librement des dons qui leur ont été départis par le grand chef de l'Église. Au fait, ils pécheraient gravement en ne les exerçant pas. Or, il existe une différence capitale entre le ministère ou le service et la sacrificative. Corée n'aspirait pas à devenir ministre, il l'était. Il aspirait à devenir sacrificateur, il ne pouvait pas l'être. La sacrificature était dévolue à Aaron et à sa famille. Ça aurait été de la part de n'importe qui en dehors de cette famille une téméraire usurpation que de vouloir offrir des sacrifices ou accomplir quelque autre fonction sacerdotale. Or, Aaron était un type de notre grand souverain sacrificateur qui est monté dans les cieux, Jésus, fils de Dieu. Les cieux sont la sphère de son ministère. Si donc il était sur la terre, il ne serait pas sacrificateur, Hébreux 8, verset 4. Notre Seigneur a surgi de Judas, tribu à l'égard de laquelle Moïse n'a rien dit concernant les sacrificateurs, Hébreux 7, verset 14. Il n'y a pas de sacrificature sur la terre maintenant, sauf dans ce sens que tous les croyants sont sacrificateurs. Ainsi, nous lisons dans Pierre, « Mais vous, vous êtes une race élue, une sacrificature royale. » 1 Épître, chapitre 2, verset 9. Tout chrétien est sacrificateur selon le sens de cette expression. Le plus faible croyant dans l'Église de Dieu est aussi bien sacrificateur que Paul l'était. Ce n'est pas une question de capacité ou de puissance spirituelle, mais purement de position. Tous les croyants sont des sacrificateurs et sont appelés comme tels à offrir des sacrifices spirituels selon Hébreux 13, verset 15-16. Offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Mais n'oubliez pas la bienfaisance et de faire part de vos biens, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Telle est la sacrificature chrétienne. Le lecteur est prié de remarquer soigneusement que, aspirer à quelque forme de sacrificature autre que celle-là, se charger de quelque autre prétendue fonction sacerdotale, établir une autre caste quelconque de sacrificateur, séparer une caste sacerdotale ou mettre à part un certain nombre d'hommes consacrés pour agir en faveur de leurs semblables ou pour accomplir à leur place un culte ou tout autre service sacerdotal devant Dieu, c'est, en principe, exactement le péché de Corée. Nous ne parlons que du principe et non des personnes. Le germe du péché est là, aussi distinct que possible. Le fruit ne manquera pas d'arriver à sa pleine maturité. Le lecteur ne saurait être trop simple en étudiant tout ce sujet. Il est, nous pouvons le dire, d'une importance capitale en ce moment et doit être examiné à la seule lumière des Saintes Écritures, nullement sous l'influence de la tradition ou de l'histoire ecclésiastique. Quels sont aujourd'hui les vrais coupables du péché de Corée? Ceux qui cherchent à exercer un don quel qu'il soit, conféré à eux par la tête de l'Église, ou bien ceux qui exercent un ministère ou qui s'attribuent un office sacerdotal dépendant uniquement de Christ lui-même? Cette solennelle question ne doit être posée et résolue qu'à la lumière de la parole. Puissions-nous l'examiner avec calme en la présence de Dieu et demeurer fidèles à celui qui n'est pas seulement notre Sauveur Clément, mais notre Souverain Seigneur. Le reste du chapitre offre une peinture très saisissante du jugement de Dieu exécuté sur Corée et sur les siens. L'Éternel résout bien vite la question soulevée par ces hommes rebelles. Le récit seul en est effrayant au-delà de toute expression. Que doit donc avoir été le fait lui-même? La terre ouvrit sa bouche et engloutit les trois principaux promoteurs de la rébellion, et le feu de l'Éternel descendit et consuma les 250 hommes qui entreprirent d'offrir de l'encens. Verset 35. Moïse pose la question uniquement entre Jéhovah et les rebelles. Il peut en appeler à Dieu et laisser tout entre ses mains. C'est le vrai secret de la puissance morale. L'homme qui ne se recherche pas lui-même, qui n'a d'autre but ou d'autre objet que la gloire de Dieu, peut attendre avec confiance l'issue de toute difficulté. Mais pour cela, son œil doit être simple, son cœur intègre, ses intentions pures, les fausses prétentions, l'envie et la présomption ne peuvent pas subsister lorsque la terre ouvre sa bouche et que le feu de l'Éternel dévore tout alentour. Il est aisé de faire le fanfaron, de se vanter et d'employer de grands mots lorsque tout est en repos. Mais dès que Dieu paraît avec son jugement terrible, l'aspect des choses change rapidement. Et il arriva comme il achevait de prononcer toutes ces paroles que le sol qui était sous eux se fendit, et la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons et tous les hommes qui étaient à Corée, et tout leur avoir. Et ils descendirent vivants dans le Sheol, eux et tout ce qui était à eux, et la terre les couvrit, et ils périrent du milieu de la congrégation, et tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils disaient, de peur que la terre ne nous engloutit. Verset 31-34. Vraiment, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Dieu est extrêmement redoutable dans l'assemblée des saints et terrible au milieu de tous ceux qui l'entourent. Car aussi notre Dieu est un feu consumant. Combien il eût mieux valu pour Corée qu'il se fût contenté de son service lévitique, lequel était de l'ordre le plus élevé? Son emploi comme théatite était de porter quelques-uns des vaisseaux les plus précieux du sanctuaire. Mais il aspirait à la sacrificature et il tomba dans l'abîme. Mais ce ne fut pas tout. À peine le sol s'était-il refermé sur les rebelles qu'il sortit du feu de la part de l'Éternel et il consuma les 250 hommes qui présentaient l'encens. Ce fut une scène épouvantable, une manifestation terrible du jugement de Dieu sur l'orgueil et les prétentions de l'homme. Il est inutile à l'homme de vouloir s'élever contre Dieu car il résiste aux orgueilleux mais il donne la grâce aux humbles. Quelle complète folie chez des vers de terre que de vouloir s'élever contre le Dieu Tout-Puissant. Si Corée et ceux qui étaient avec lui avaient été humbles, soumis à Dieu, contents de la position que Dieu leur avait assignée, cette position eût-elle été aussi humble qu'elle était brillante? Ils auraient été honorés par Dieu et n'auraient pas rempli le cœur de leurs frères d'épouvante et de deuil. Ils voulurent être quelque chose, quoique n'étant rien, et tombèrent dans l'abîme sous le gouvernement moral de Dieu. La destruction fit inévitablement l'orgueil. Puisons dans l'étude du chapitre 16 des nombres un sentiment plus vif de la valeur d'un esprit humble et contrit. Nous sommes dans un moment où l'homme tend de plus en plus à s'élever. Excelsior est une devise très populaire maintenant. Prenons garde à notre manière de l'interpréter et de l'appliquer. Celui qui s'élève sera abaissé. Si nous sommes gouvernés par la règle du royaume de Dieu, nous verrons que le seul moyen d'être élevé, c'est de descendre. Celui qui occupe maintenant la place suprême dans les cieux est celui qui a pris volontairement la place la plus humble ici-bas. Philippiens 2, verset 5 à 11. Voilà notre modèle comme chrétien. Là aussi est l'antidote divin contre l'orgueil et l'ambition séditieuse des hommes de ce monde. Rien n'est plus triste que de voir un esprit présomptueux, remuant, vain et impatient chez ceux qui font profession de suivre celui qui était doux et humble de cœur. S'examiner dans la présence de Dieu, puis être souvent seul avec lui est le souverain remède contre l'orgueil et la satisfaction de soi-même. Puissions-nous en connaître la réalité dans le secret de nos âmes. Que le Seigneur, dans sa bonté, nous rende réellement humbles dans toutes nos voies et nous donne de nous appuyer simplement sur lui-même et de n'être rien à nos propres yeux. Le dernier paragraphe de notre chapitre démontre de la manière la plus frappante le mal incorrigible du cœur naturel. On pouvait vraiment espérer qu'après les scènes impressionnantes qui s'étaient passées devant elle, l'assemblée aurait appris des leçons profondes et durables. Ayant vu la terre ouvrir sa bouche, ayant entendu les cris déchirants des rebelles qui disparaissaient dans l'abîme, ayant vu le feu de l'Éternel descendre et consumer en un moment 250 des principaux de l'assemblée, ayant été témoin de telles preuves du jugement divin, d'un tel déploiement de la puissance et de la majesté de Dieu, ce peuple, aurait-on dû supposer, allait désormais marcher paisiblement et humblement sans que les accents du mécontentement et de la rébellion se fissent de nouveau entendre dans leur tente. Hélas, on aurait beau enseigner ces choses à l'homme, la chair est complètement incurable. Cette vérité se révèle à chaque page du volume de Dieu, elle est démontrée dans les dernières lignes du chapitre 16. Et le lendemain, pensez-y, ce ne fut pas un an ou un mois ou même une semaine après les scènes effrayantes sur lesquelles nous nous sommes arrêtés, mais le lendemain, toute l'assemblée, non plus simplement quelques esprits téméraires, toute l'assemblée des fils d'Israël murmura contre Moïse et contre Aaron, disant « Vous avez mis à mort le peuple de l'Éternel. » Et il arriva, comme l'assemblée se réunissait contre Moïse et contre Aaron, qu'ils regardèrent vers la tente d'assignation, et voici la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. Et Moïse et Aaron vinrent devant la tente d'assignation. Et l'Éternel parla à Moïse, disant « Retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un moment. » Verset 41-45. Voici pour Moïse une nouvelle occasion d'intercession. L'assemblée entière est de nouveau menacée d'une prompte destruction. Tout paraît sans espoir. La longanimité de Dieu paraît être à bout. L'épée du jugement est sur le point de tomber sur toute la congrégation. Et l'on voit justement alors que les rebelles et le peuple trouvent leur seul espoir dans cette sacrificature qu'ils avaient méprisée et que les hommes mêmes qu'ils avaient accusés de faire mourir le peuple de l'Éternel sont des instruments de Dieu pour sauver leur vie. Et ils tombèrent sur leur face et Moïse dit à Aaron, « Prends l'encensoir et mets-y du feu de dessus l'autel et mets-y de l'encens et porte-le promptement vers l'assemblée et fais propitiation pour eux, car la colère est sortie de devant l'Éternel, la plaie a commencé. » Et Aaron le prit, comme Moïse lui avait dit, et il courut au milieu de la congrégation. Et voici, la plaie avait commencé au milieu du peuple. Et il mit l'encens et fit propitiation pour le peuple, et il se tint entre les morts et les vivants, et la plaie s'arrêta, verset 46-48. Cette sacrificature qui avait été si méprisée pouvait seule sauver le peuple rebelle et obstiné. Il y a quelque chose d'indiciblement béni dans ce dernier paragraphe. Aaron, le souverain sacrificateur de Dieu, se tient là entre les morts et les vivants, et de son encensoir s'élève un nuage encens qui monte jusqu'à Dieu, qui frappant de celui-ci, plus grand qu'Aaron, ayant fait par lui-même une parfaite expiation pour les péchés de son peuple, est toujours devant Dieu dans tout le parfum de sa personne et de son âme. La sacrificature pouvait seule conduire le peuple à travers le désert. C'était la ressource riche et convenable de la grâce divine. Le peuple était redevable à l'intercession du souverain sacrificateur d'être préservé des justes conséquences de ses murmures rebelles. S'il avait été traité simplement sur le principe de la justice, tout ce qui pouvait être dit c'était « Laissez-moi et je les consumerai en un moment ». Tel est le langage de la pure et inflexible justice. La destruction immédiate est l'œuvre de la justice. La pleine et finale délivrance est l'œuvre glorieuse et caractéristique de la grâce divine, grâce régnant par la justice. Si Dieu avait agi uniquement en justice envers son peuple, son nom n'aurait pas été pleinement glorifié, puisque ce nom implique, outre la justice, d'autres attributs tels que l'amour, la miséricorde, la bonté, la clémence, le support, une compassion profonde et inépuisable. Or, aucune de ces choses n'aurait été connue si le peuple avait été consumé en un moment, et par conséquent, le nom de Jéhovah n'aurait pas été glorifié ou pleinement déclaré. À cause de mon nom, je différerai ma colère, et à cause de ma louange, je me retiendrai à ton égard pour ne pas te retrancher. À cause de moi-même, je le ferai, car comment mon nom serait-il profané, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ésaïe 48, verset 9 et 11. Combien n'est-il pas précieux que Dieu agisse envers nous, pour nous et en nous pour glorifier son nom? Combien il est merveilleux aussi que sa gloire resplendisse sur tout, et même qu'elle ne soit pleinement manifestée que dans le vaste plan formé par son cœur, et dans lequel il se révèle comme Dieu juste et sauveur. Précieux nom pour un pauvre pécheur perdu, il contient tout ce dont l'homme peut avoir besoin pour le temps et pour l'éternité. Il le saisit dans la profondeur de sa misère comme un coupable digne de l'enfer, le porte à travers les luttes variées, les épreuves et les douleurs du désert, et finalement le conduit en haut dans ce séjour heureux et béni où le péché et le chagrin ne peuvent jamais entrer.